Vous êtes sur RTL. Yves Calvi.
Pourquoi notre modèle français, envié et admiré dans un certain nombre de pays du monde entier, semble être autant créateur de souffrance et de mal-être pour nos concitoyens, avec les dépenses sociales pourtant les plus importantes du monde? Les enquêtes d'opinion sur le bonheur ressenti nous situent parmi les pays les moins heureux de la planète. Contestation, défiance, violence, mal-être, est-ce la fin, d'une certaine façon, du modèle français? On en discute avec Denis Oliven. Bonjour Denis Oliven.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous publiez Le délicieux malheur français. Le livre est paru hier chez Albin Michel. Déjà, le titre est une provocation en tant que tel, le délicieux malheur français.
Non, je crois que c'est une explication. Vous l'avez dit, on a l'impression d'être dans un pays qui est devenu comme une gigantesque association de détestation mutuelle. Il y a un niveau de violence sociale, on l'a vu avec les gilets jaunes, de violence dans le débat public. Et d'un autre côté, on est l'un des pays les plus riches du monde et les plus généreux. Et donc, il y a un paradoxe. Comment se fait-il que on ait les dépenses sociales du Danemark et le bonheur du Mexique qui est deux fois moins riche que nous? C'est ça que j'ai essayé de comprendre. Pourquoi ce paradoxe? Qu'est-ce qui explique cela? Et je ne crois pas que ce soit parce que nous sommes de mauvaise humeur ou des Gaulois réfractaires.
Quelle est votre explication finalement?
C'est précisément ce que vous avez dit dans votre introduction, c'est que c'est notre modèle, celui que nous avons, notre modèle, le fameux modèle français, celui que nous avons construit à la Libération, enrichi depuis, que nous adorons, que nous vénérons, que nous ne voulons pas réformer, et c'est lui pourtant qui nous cause du mal. On voit bien, et c'est ça qui rend la chose très difficile, délicieux malheur français, on aime un modèle qui nous fait du mal.
Comment un modèle pareil, qui est basé sur la générosité et la redistribution, peut-il, au bout du compte, selon vous, faire du mal? À peine une demi-heure sur l'antenne d'RTL, Philippe Martinez expliquait à Alba Ventura que, selon lui, la retraite, ça devrait être 60 ans, point barre.
Eh bien, c'est un bon exemple. Notre modèle français nous fait du mal. Ça se voit par le fait qu'on dépense de plus en plus et qu'on est de moins en moins heureux. Il nous fait du mal parce qu'on a inventé quelque chose qui est incroyable et inédit dans le monde. L'égalité injuste. L'égalité injuste. Quand on regarde, je vous donne deux exemples.
Oui. Vous maniez les paradoxes, c'est ce qui fait le charme de ce livre. Donc,
combien de temps il faut en France pour passer des classes pauvres aux classes moyennes? 6 générations. 150 ans. C'est pas un ascenseur social qu'on a, c'est un interminable escalier en colimaçon. Autre exemple. Une fois que vous êtes dans ces classes moyennes, est-ce que vous êtes très bien traité? La crise des gilets jaunes a montré que pas du tout. Vous payez beaucoup d'impôts, vous recevez peu de prestations et vous n'avez qu'un petit patrimoine. Les riches, ils bénéficient des marchés financiers, du marché immobilier. Les plus démunis, et c'est très heureux, ils sont protégés. Mais les classes moyennes, elles, à quoi elles sont confrontées? Au grand déclassement. Voilà deux exemples, et d'ailleurs, voilà pourquoi elles ont fait leur propre mai 68 il y a quelques mois. Voilà deux exemples de ce qui ne marche pas. Pourquoi?
Allez-y.
Pourquoi? Eh bien, parce que on n'est pas seulement le pays des 300 fromages, on est aussi le pays des 40 régimes d'assurance de retraite.
Oui.
On est le pays des 400 régimes d'assurance maladie.
Ce sont des droits expliqués il y a quelques instants. Là encore, Philippe Martinez en disant vous êtes bien gentil de nous dire qu'on doit tout, mais c'est les gens qui ont été engagés, qui bénéficient par exemple d'une carrière à la SNCF, ils ont signé un contrat avec un certain nombre de mesures sociales. Ce sont des droits et on ne peut pas les remettre en cause.
Oui, bien sûr, mais avant d'expliquer comment on peut les remettre en cause, il faut déjà faire le bon diagnostic ensemble. Un pays qui a 40 régimes de retraite, 300 systèmes d'assurance maladie, 500 niches fiscales, c'est un pays dans lequel vous êtes deux personnes dans un café, ont le même niveau de revenus, la même carrière ou à peu près, mais ils l'ont fait dans des entreprises différentes, mais ils ne payent pas les mêmes impôts. Ils ne payent pas les mêmes cotisations sociales, ils n'ont pas les mêmes remboursements d'assurance maladie, ils n'ont pas les mêmes pensions de retraite. Comment voulez-vous? Et donc chacun a le sentiment qu'on dépense beaucoup d'argent, mais que lui est moins bien traité que son voisin. Et ça crée entre nous de la défiance, de la jalousie, oui, et de la violence. Donc si on regarde autour de nous, on voit que des pays qui sont pas si loin que nous, qui sont aussi loin que Nice de Paris, dans les pays scandinaves, ils dépensent autant d'argent que nous, autant d'impôts que nous, sauf qu'ils le font de manière beaucoup plus égalitaire, donc beaucoup plus unifiée, et donc la société se réunit et elle est plus heureuse.
Le temps file très vite. Comment on réenchante finalement le projet de vie en commun des Français? Et comment ne pas donner l'impression, avec la publication de ce livre, qu'on est en train de dire à ceux qui ont des difficultés, il est né des Gilets jaunes, votre livre, en tout cas du mouvement des Gilets jaunes.
Bien sûr.
Même si ce sont des idées que vous portez longtemps,
bien sûr,
depuis longtemps en vous, de dire des idées de rénovation.
Bien sûr.
Mais voilà, de dire dire oh écoutez, vous savez, on a un système social exceptionnel et vous ne le savez même pas. Qu'on ne parle pas avec condescendance des difficultés des Français. Vous comprenez ma question?
C'est presque l'inverse. Je crois que ce qu'il faut, si on veut se réformer, c'est comme quand on a une maladie. Il faut déjà poser le bon diagnostic. Et c'est le seul objet de ce livre, c'est qu'ensemble, on essaye de réfléchir. Je ne suis pas tout seul, j'espère qu'il y en aura d'autres, mais qu'on essaye de poser le bon diagnostic, qu'on ne se trompe pas. Et le bon diagnostic, ça consiste à dire, il ne s'agit pas de dépenser moins, il ne s'agit pas de protéger moins, c'est pas, je ne vous propose pas qu'on aille vers un modèle à l'américaine, c'est pas ça, mais il faut qu'on comprenne qu'il y a un vice de construction de notre système. Inspirons-nous de ce qui se fait dans des pays qui ont le même contrat social que nous. On ne sera pas moins protégé, mais on sera un pays plus égal, plus juste dans son égalité. Et ça ne peut pas se faire en un jour, ça prendra du temps. Mais il faut commencer par comprendre d'où vient notre mal.
En fait, ce livre est un appel à la vérité, c'est-à-dire la vérité des chiffres, la vérité des situations.
Oui, je pense qu'on a les hommes politiques qu'on mérite, si j'ose dire, c'est nous citoyens qui devons comprendre ce qui nous arrive. Et si on fait ce travail-là de compréhension, et j'essaie de l'expliquer de la manière la plus simple, la plus claire, avec toute la documentation en annexe pour vérifier que ce que je raconte n'est pas faux, de la façon la plus simple et la plus claire, parce que si nous, ensemble, collectivement, on fait le bon diagnostic, on attendra de nos hommes politiques des réformes qui nous permettront d'avoir toujours le même niveau de protection, mais de manière plus juste.
On peut encore réformer le pays, en une phrase ?
Je suis certain que oui. Pourquoi est-ce que tous les pays d'Europe y parviendraient et pas nous ? Oui, si on fait le bon diagnostic.
Merci Denis Oliven. Le délicieux malheur français vient de paraître aux éditions Albin Michel. Merci d'être passé ce matin par le studio RTL pour évoquer vos convictions. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
RTL. On a tellement de choses à se dire.